histoire surprenante des contes de fées, Jean-Louis Lahaye.
En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire.
Quand on a peur, on crie, on pleure. Sorcière, sorcière.
Il y avait des loups dehors, il y avait des loups dehors, des grands loups carnivores.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre série L'histoire surprenante des contes de fées. Installez-vous bien confortablement dans votre voiture ou sur votre canapé. Allumez un feu ou mettez les sièges chauffants. Prenez vos enfants ou petits-enfants sur vos genoux. Et laissez-vous bercer par ces magnifiques histoires qui ont marqué notre enfance. Et pour les plus grands, en deuxième partie d'émission, nous vous dévoilerons la face cachée de ces contes de fées. Amour, aventure, magie bien sûr, mais aussi cannibalisme, meurtre, suicide. Avec nos experts, nous découvrirons les versions originales de ces contes et tous leurs secrets. Vampires, Nosferatu, non-morts, buveurs de sang. Ah, les légendes étaient là depuis toujours. Mais c'est véritablement sous la plume de l'anglais Bram Stoker que le Seigneur de la Nuit se fera connaître sous les traits d'un monstre sanguinaire. Ensuite, la littérature et surtout le cinéma vont faire évoluer sa personnalité. Tantôt beau et magnétique, comme Lestat, dans le livre « Entretien avec un vampire », il deviendra même un héros romantique dans la saga à succès Twilight ou la série télévisée « Vampire Diaries ». Francis Ford Coppola a également revisité le roman de Bram Stoker et transformé l'horreur en sublime histoire d'amour. Il est enfin le héros des dessins animés de nos enfants. Je pense notamment à Hôtel Transylvanie. Bref, Ange ou démon, le vampire nous a toujours fascinés. Mais d'où vient-il? Quelles légendes ont façonné ce personnage mythique ainsi que tous ses accessoires, à savoir l'ail, le crucifix, la chauve-souris, le cercueil? Dracula a bien existé, sous le nom de prince Vlad Tepes le III. Mais qu'est-ce qui lui a valu le titre de prince des vampires? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire surprenante de Dracula. Attention aux plus petits, même si nous avons édulcoré ce récit, il s'agit moins d'un conte de fées que d'un conte de démons. Il était une fois en Transylvanie, dans un grand château entouré de noires forêts, un prince et une princesse. Ils s'aimaient d'un amour si fort que rien ne pourrait jamais les séparer. Vlad et Léana vivaient heureux, entourés de tziganes qui jouaient de la musique du matin au soir, de bons villageois qui prenaient soin d'eux et de loups qui hurlaient mélodieusement à la nuit tombée. Mais un jour, le prince fut appelé à mener une guerre contre l'ennemi turc qui menaçait leurs frontières. Puissant guerrier de l'ordre de Dracul, c'est-à-dire du dragon, il sut se montrer brave et hardi. Mais on dit bientôt de lui qu'il était cruel et sans pitié. Très vite, il fut surnommé Vlad l'Empaleur et ses ennemis, comme ses propres hommes, se mirent à le craindre. On racontait même qu'il buvait le sang de ses victimes pour devenir plus fort. Il se montra si violent pendant la guerre que, lorsque celle-ci fut finie, un soldat décida de le punir. Alors que Vlad marchait vers son château pour retrouver la belle Léana, le soldat le devança et informa la princesse que son époux était mort à la bataille. La princesse fut si malheureuse qu'elle se jeta de la plus haute tour du château. Quand Vlad arriva enfin chez lui, on lui annonça la terrible nouvelle. Dans son désespoir, il abjura sa foi et tua tous ceux qui l'entouraient, villageois, tziganes et tout le personnel du château. Seuls les loups furent épargnés. Puis il s'enferma dans son château et n'en sortit plus jamais. Je vous ai dit que rien ne pourrait jamais séparer Vlad et Léana. Et c'est ce qui arriva. 4 siècles passèrent.
Quand la diligence du jeune Jonathan Harker s'arrêta devant le château du comte Dracula, il était presque entièrement recouvert de lierre. Il faisait nuit, et de la neige tombait alors qu'on était en plein été. Le cocher était très agité et semblait fort pressé de s'en aller. Non, Jonathan n'était pas très rassuré non plus. Quand il était arrivé au village le plus proche du château, à tout de même quelques heures de voiture d'ici, il avait entendu de drôles d'histoires. On lui avait parlé de châteaux hantés, de loups domestiqués et d'une créature aux yeux rouges et aux longues dents qui mordait le cou des pauvres gens. Des pauvres gens qu'on n'avait jamais revus ensuite. L'aubergiste lui avait même remis un crucifié de l'ail, lui disant que cela le protégerait. Drôle d'idée. Allons, Jonathan n'allait pas se laisser impressionner, d'autant qu'il était là pour le travail. En tant que clerc de notaire, son employeur l'avait envoyé dans les Carpates chez ce mystérieux client afin qu'il lui fasse signer quelques papiers. Désireux de voir le monde, le comte Dracula avait acheté une maison à Londres et Jonathan venait finaliser cette transaction immobilière. L'immense porte du château s'ouvrit dans un long grincement.
« Cher ami, bienvenue dans ma modeste demeure, » dit une ombre derrière la lourde porte.
Le comte apparut et recula pour laisser entrer Jonathan. Jonathan ne put réprimer un frisson. Le comte, un vieil homme aux cheveux blancs, était vêtu de noir, des pieds à la tête. Son teint était livide. Ses lèvres, fort rouges, avaient une expression cruelle et laissaient entrevoir des dents blanches et très pointues. Et ce regard, ses yeux rouges, flamboyaient de façon terrifiante.
« Allons, entrez de votre plein gré. Il va bientôt faire nuit et les morts vont vite. »«
Merci, monsieur le comte, » répondit Jonathan hésitant. On entendit soudain des loups hurler.
« Oh, écoutez-les, les enfants de la nuit. En faut-il une musique ?» jubila le comte.
Puis il dit quelques mots dans une langue que Jonathan ne comprit pas et aussitôt, les loups se turent. Jonathan entra dans le château avec un mauvais pressentiment.
Bien que le château, sombre et humide, fût peu accueillant, le comte se montra fort aimable et quand Jonathan fut installé dans sa chambre, il se détendit.
Les tentures de son lit et de ses rideaux étaient soyeuses et certainement coûteuses. Un bon feu crépitait dans son immense cheminée et un repas gargantuesque avait été dressé dans un coin de la pièce. Le comte, trop heureux d'avoir un visiteur, se joignit à Jonathan pour le dîner. Mais, chose étrange, il ne mangea ni ne but quoi que ce soit. Ils discutèrent de la nouvelle maison londonienne du comte, puis vers minuit, ce dernier prit congé, annonçant qu'il avait du travail. Jonathan dormit paisiblement cette nuit-là. Il avait pris soin d'accrocher le crucifix de l'aubergiste au-dessus de son lit. Le lendemain, épuisé par son voyage, Jonathan se réveilla fort tard. Aucun signe du comte, ni de qui que ce soit dans le château. Enfin, de ce qu'il put en voir, car toutes les portes qu'il rencontrait étaient fermées, à clé. Quand le soir tomba, il décida de se préparer pour le dîner et de se raser. Comme il ne trouvait aucun miroir, il utilisa celui de son nécessaire de voyage.
« Mon ami, comment allez-vous ? »
Jonathan sursauta. Il n'avait pas vu le comte arriver dans son miroir. Pourtant, il y voyait se refléter toute la pièce.
« Ah, c'est vous ! Vous m'avez fait peur ! Eh bien, je vous remercie, je suis installé très confortablement. J'ai profité de la journée pour préparer tous les papiers à signer. Si tout va bien, je pourrai vous quitter demain. »
Alors qu'il parlait, Jonathan vit le comte s'approcher de sa commode et saisir le petit portrait de sa fiancée, Mina. Un portrait qu'il emportait partout avec lui. Le comte lui parut se sentir mal. Il se mit à trembler et une larme aussi brillante qu'un diamant vint couler le long de sa joue. Jonathan l'entendit chuchoter.
« Léana !»
Dracula serra si fort la photo que le verre se brisa. Il se reprit.
« Je ne crois pas que vous partirez demain, mon ami, »
répondit froidement le comte.
« J'ai écrit à votre employeur que je comptais sur votre présence pour plusieurs semaines. »
Le sang de Jonathan se glaça dans ses veines. Il eut le sentiment étrange qu'il ne rentrerait jamais chez lui. Et en effet, quand Dracula le quitta cette nuit-là, notre jeune clerc constata que sa porte avait été fermée à clé. Jonathan se précipita vers la fenêtre pour essayer de trouver un moyen de quitter le château, mais il était beaucoup trop haut. C'est alors qu'il vit le comte, quelques mètres plus bas, penché à sa propre fenêtre. Dracula se pencha de plus en plus et tout à coup,
Il était dehors, rampant la tête en bas, le long des murs du château, comme un lézard. Il disparut dans la nuit. Abomination. Jonathan en avait assez vu et ne pensa plus qu'à fuir. Sa porte étant fermée à clé, le seul moyen de sortir était par la fenêtre. Il parvint, non sans mal, à descendre le long du mur jusqu'à la fenêtre du comte. Les appartements de Dracula étaient vides et semblaient inhabités. Soudain, il entendit des voix de femmes dans la nuit noire, au fond de la chambre de Dracula. Il distingua trois silhouettes féminines et les mêmes yeux rouges que ceux du comte qui le regardaient avec convoitise. Jonathan fila, ce qui fit beaucoup rire les trois créatures. « Quand le comte en aura fini avec toi, tu seras à nous », l'entendit-il chuchoter. Jonathan passa la nuit entière à essayer de sortir du château, en vain. À l'aube, il entendit le comte rentrer. Caché dans le hall, Jonathan le vit emprunter un souterrain. Quelques minutes plus tard, quand il n'y eut plus un bruit, il sortit de sa cachette et décida d'emprunter le même chemin. Il ne se doutait pas qu'au bout du chemin, sous le château, au fond d'une crypte, il trouverait un cercueil, et que dans ce cercueil, il trouverait le comte paisiblement endormi, du sang rouge et frais encore sur ses lèvres et rajeuni de plusieurs dizaines d'années. Mina était une très belle jeune femme. Institutrice très appréciée, fiancée au futur notaire Jonathan Harker, elle avait tout pour être heureuse, en espérant toutefois que son fiancé revienne bientôt de son voyage dans les Carpates. Elle avait reçu une lettre l'informant qu'il était bien arrivé, puis plus rien, ce qui ne lui ressemblait pas. Les semaines passaient et Mina restait sans nouvelles. Un jour qu'elle se promenait dans Londres, du côté de Piccadilly Circus, elle sentit une présence à la fois intense et réconfortante derrière elle. Elle se retourna et le vit. L'homme était grand et mince. Il avait un nez aquilin et des lèvres très rouges. Il lui sourit. Et elle aperçut ses dents très blanches et très pointues. Mina, de nature pourtant timide, fut instantanément attirée par cet homme et elle se laissa approcher, sans réserve aucune. « Chère mademoiselle, je suis navré de vous interrompre dans votre promenade, » s'excusa Dracula. « Mais quand je vous ai vu, j'ai eu l'impression de vous connaître depuis des siècles. »
En effet, c'est étrange. Vous m'êtes aussi familier.
Je m'appelle Vlad. En fait, je ne suis pas d'ici. Je viens d'arriver à Londres. Quelle ville étonnante. Voulez-vous bien m'accompagner pour me faire découvrir cette ville et votre culture qui me sont totalement étrangères?
Mina ne chercha pas à décliner l'invitation. Et ils passèrent une journée délicieuse dans les parcs, les musées et les nombreuses expositions londoniennes. À la fin de la journée, ils se promirent de se retrouver le lendemain et il en fut ainsi le jour suivant et celui d'après. Jusqu'au jour où, enfin, Mina reçut une lettre de Transylvanie. « Chère madame, je vous écris de la part de votre fiancé Jonathan Harker. Nous l'avons recueilli dans notre couvent il y a plusieurs jours. Il était très faible et semblait avoir reçu un choc terrible. Dans son délire, je l'ai entendu parler de choses effroyables, de loups, de poison et de sang, de femmes démons et d'autres choses encore que je n'ose pas nommer. Venez au plus vite, il vous réclame et souhaite que vous vous mariez ici le plus rapidement possible. » Mina fit ses bagages et prit le premier train pour la Transylvanie. C'est en tant que mari et femme que Jonathan et Mina revinrent à Londres quelques semaines plus tard. Jonathan était rongé par l'angoisse et ses terribles révélations sur son séjour dans les Carpates pesaient lourdement sur eux. Jonathan avait tout raconté. Les phénomènes mystérieux, sa captivité, puis le départ du comte qu'il avait livré en pâture à ses épouses démoniaques. Malgré son état extrêmement faible, il avait réussi à fuir, mais il avait encore au cou les marques de leurs morsures. Les semaines passèrent. Mina s'efforçait par tous les moyens de ramener un semblant de bonheur dans leur nouveau foyer. Mais un jour, alors qu'elle se promenait avec Jonathan dans Hyde Park, elle le vit s'arrêter net et se figer. Elle regarda dans la même direction que lui et aperçut le bel inconnu de Piccadilly Circus. Vlad, qui traversait la rue.
Mina, je suis sûr que c'est lui, c'est le comte Dracula. Mais il a terriblement rajeuni.
Mina ne souffle un mot. Il lui était difficile de faire le lien entre l'homme sensuel et magnétique qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt et le monstre qu'avait connu Jonathan. Pourtant, au fond d'elle-même, elle sut que Jonathan disait vrai et qu'à partir de cet instant, sa destinée allait prendre un tout autre chemin. À compter de ce jour, Mina ne connut plus la tranquillité. Toutes ses pensées la ramenaient sans cesse au compte. Elle devint pâle, et de grands cernes noirs vinrent creuser ses yeux. Jonathan s'en inquiéta. Elle lui confia alors en riant que lorsque Jonathan ne dormait pas avec elle, une chauve-souris grattait à sa fenêtre la nuit, l'empêchant ainsi de dormir. Et puis une nuit, la chauve-souris forma une fine fumée noire qui se glissa dans la chambre de Mina, par les interstices de la fenêtre. La fumée devint un homme grand et mince, vêtu de noir des pieds à la tête. Vlad vint s'asseoir sur le lit de Mina. C'est dans une ancienne langue slave que Vlad s'adressa à elle. Et c'est dans cette langue qu'elle lui répondit. « Léana, amour de ma vie. »«
Vlad, vous êtes là. »
murmura Mina semi-consciente.
« Tant de siècles ont passé. Comment m'avez-vous retrouvée ?»«
C'est votre portrait que celui qui partage votre vie aujourd'hui a apporté au château. »«
Ramenez-moi, Vlad. Je veux rentrer chez nous. »
Mon amour, je ne le peux. Ou vous serez condamné à l'enfer et à la damnation.
Cela m'est égal. Je préfère la damnation avec vous plutôt que cette vie de mort.
Alors Dracula se pencha sur le cou offert de Mina et mordit dans sa chair. Puis il se coupa le bras à l'aide de son ongle, le sang coula et il l'offrit à Mina. C'est à ce moment précis que Jonathan, qui semblait avoir entendu un bruit, entra dans la chambre. Vlad se jeta par la fenêtre qui se brisa. Il se changea en chauve-souris et disparut dans la nuit noire. Mina gisait sur le lit, ses lèvres et sa chemise de nuit couvertes de son sang et de celui de Vlad. Elle semblait complètement désorientée. Les jours suivants virent s'opérer un nouveau changement chez Mina. Elle maigrit beaucoup, respirait difficilement et ses dents semblaient s'allonger de jour en jour. Elle n'avait par ailleurs aucun souvenir de la nuit où le comte Dracula était venu la visiter. Jonathan fit appel à plusieurs médecins, mais aucun ne put identifier la cause exacte de ses symptômes. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux conseilla à Jonathan de faire appel au professeur Abraham Van Helsing, un éminent spécialiste des faits occultes. Van Helsing hypnotisa Mina, ce qui leur permit de rassembler enfin toutes les pièces du puzzle. « Mina, avez-vous bu son sang ?» demanda le professeur Van Helsing.
« Oui. »«
Et savez-vous où il est ?»«
Il communique avec moi. Il est sur un bateau, en route pour la Transylvanie, car il était trop faible pour rester ici. Il doit retrouver sa terre pour reprendre des forces et revenir me chercher. »«
Nosferatu, un vampire, le prince des vampires, » murmura Van Helsing. « Mon Dieu, monsieur Harker, il n'y a plus une minute à perdre. Nous devons rassembler des hommes et intercepter Dracula avant qu'il n'arrive chez lui. C'est notre seule chance de mettre fin à toutes ces horreurs qui ont par trop duré. Il doit venir avec nous. Il communique avec elle et elle pourra nous fournir d'importantes informations. »
Une course contre la montre commença. Van Helsing et ses hommes ainsi que Jonathan et Mina montèrent dans le premier train pour la Transylvanie. Une fois arrivés dans les Carpates, ils prirent une diligence pour le château. Mais le comte communiqua avec Mina et savait donc exactement où ils étaient. Alors que leur diligence était toute proche du château, Dracula invoqua une tempête, ce qui les retarda et permit au comte d'arriver avant eux et de préparer sa défense. Il faisait nuit quand Van Helsing et ses hommes pénétrèrent dans la cour du château. Il leur fallut alors beaucoup de courage pour affronter les créatures de Dracula. Pendant des heures, ils luttèrent contre les femmes vampires du comte, à grand renfort de crucifix et d'ail, mais aussi contre Mina, qui devenait vampire à son tour. Le matin les trouva sains et saufs. Mina semblait être redevenue elle-même. Ils entrèrent dans le château ils trouvèrent la crypte où Dracula avait trouvé refuge. Reposant dans son cercueil, il était de nouveau très vieux et semblait très vulnérable. Van Helsing leva le bras, son poignard à la main. Mais Mina hurla et se jeta sur le comte si bien que le couteau de Van Helsing ne transperça pas complètement le cœur du vampire. Mina se saisit d'une arme et menaça Van Helsing de le tuer s'il s'approchait d'eux. Elle emmena Dracula agonisant dans la chapelle du château, là même où il avait renié Dieu et son église des siècles plus tôt.
« Léana, je veux être en paix, je veux être en paix, libérez-moi de cet enfer !»
implora Dracula se mourant dans les bras de Mina.
« Je vous retrouverai, Vlad. »
Mina appuya de tout son poids sur le couteau déjà enfoncé dans la poitrine du comte. La lame transperça le cœur. C'est alors que toutes les bougies de la chapelle s'allumèrent en même temps, créant comme un halo divin autour de Vlad et Mina. Vlad retrouva son visage de jeune homme. Il regarda une dernière fois l'amour de sa vie, lui sourit avec sérénité et rendit son dernier souffle. Mina vit alors l'âme de Dracula quitter son corps et s'élever vers le ciel dans une douce lumière. L'amour de Vlad et Léana avait été si fort qu'il avait traversé les siècles et permis au comte d'expier ses fautes. Il quittait le monde en paix et pardonné. Soudain, Mina sentit l'âme de Léana quitter son propre cœur. Mina était enfin en paix avec elle-même. Désormais, Vlad et Léana étaient réunis sous d'autres cieux, et Mina alla retrouver Jonathan.
L'interview vérité.
Nous venons d'entendre l'histoire de Dracula, inspirée du roman de Bram Stoker et telle qu'elle a été romancée par le cinéaste Francis Ford Coppola. Oui, parce que dans le roman de Stoker, il n'y a pas cette belle histoire d'amour entre Dracula et Mina. Et j'aimerais maintenant accueillir notre experte en conte qui va nous en dire un peu plus sur ce personnage si populaire en Roumanie, mais aussi dans le monde entier. Bonjour Gaëlle Rucois.
Bonjour Jean-Louis.
Vous êtes diplômée de l'école de journalisme IEX. Aujourd'hui, vous êtes en charge de l'ASBL de Livre en Livre et depuis une dizaine d'années, vous êtes aussi conteuse pour des enfants défavorisés. Alors Gaëlle, quand on parle du vampire Dracula, on parle d'une légende ou d'une histoire vraie?
Mais vous essayez déjà de m'embrouiller, Jean-Louis.
Oui.
Bon, alors évidemment, quand on parle de vampire, il s'agit d'une légende. Mais quand on parle de Dracula, eh bien, il s'agit d'une histoire vraie. Mais comme on va le voir, tout cela est étroitement imbriqué.
Ah, on vous écoute. On commence par l'histoire vraie, si vous voulez bien.
Dracula, de son vrai nom Prince Vlad Tepes III dit l'Empaleur, est né au début du XVe siècle en Valachie. Alors c'est une des principautés à population roumanophone de l'époque médiévale. On appelle aussi Vlad III Draculea, ce qui veut dire le fils du dragon en roumain médiéval. C'est un surnom qui est dû au fait que son père, le prince Vlad II, était un Dracul, c'est-à-dire un membre de l'ordre du dragon, qui est à l'époque un ordre de chevalerie qui lutte pour défendre la chrétienté.
D'accord, c'est donc de là que vient le nom de Dracula. Bon, et d'où vient le joli surnom d'Empaleur?
Alors, je vais vous donner d'abord un peu de contexte. On est au XVe siècle. Les pays de la chrétienté catholique et orthodoxe sont menacés par l'Empire ottoman. En particulier, les pays qui se situent à la frontière de ce grand conflit, dont la Valachie. Et Vlad va être un des principaux acteurs dans ce conflit. Il va passer l'essentiel de son existence dans une croisade extrêmement cruelle et sanglante contre les Turcs. Sa signature, qui lui vaudra le nom de Vlad l'Empaleur, eh bien, vous l'aurez compris, c'est d'empaler des dizaines et des dizaines de milliers de Turcs. Et il laisse derrière lui des forêts entières de pales après les combats. C'est l'horreur absolue. Alors évidemment, ces histoires vont faire le tour des cours européennes, vont être déformées. Le prince est vu comme un monstre buveur de sang. L'histoire devient une légende, la légende un mythe, jusqu'à ce que l'écrivain irlandais Bram Stoker s'en empare pour créer et populariser le vampire Dracula à la fin du 19e siècle.
Voilà donc comment est né le personnage du vampire Dracula.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que de son vivant, et au cours des siècles qui ont suivi le règne de Dracula, les Roumains ont quant à eux toujours considéré Vlad comme un symbole de patriotisme, un ferme défenseur de la chrétienté. Il a repoussé à plusieurs reprises les Ottomans et sous son règne, il a fait prospérer ses sujets. Et donc, quand on a commencé à lui prêter cette réputation de vampire, les Roumains n'ont pas vraiment apprécié. Même si aujourd'hui, ils ont su exploiter la légende pour développer le tourisme.
Et chaque pays aurait fait de même. Bon, mais alors, le vampire, il vient d'où, lui?
Alors, si on en revient aux légendes, eh bien, le vampire, il a toujours existé. Et ça, depuis l'Antiquité. Chaque civilisation a eu ses démons buveurs de sang, ses créatures revenues d'entre les morts. Et à chacun, sa particularité. On a des vampires qui craignent la fleur d'ail, d'autres la verveine, très souvent le crucifix. Ils peuvent se changer tantôt en chauve-souris, tantôt en loup-garou. Et dans le monde entier, on a trouvé des sépultures présentant des squelettes décapités ou avec des pieux de fer dans le cœur ou encore des briques entre les dents pour éviter à ces morts-vivants de sortir de leur tombeau à la force de leurs dents. Mais c'est véritablement dans les Balkans, où le mythe du vampire est très présent, que le mot « vampire » est né. La légende veut qu'au début du XVIIIe siècle, deux Serbes soient revenus d'entre les morts assoiffés de sang. Des affaires sérieuses qui auraient même poussé un pasteur à publier un ouvrage où on voit apparaître pour la première fois le terme, d'ailleurs serbe, « vampiri, buveur de sang ».
Voilà, et aujourd'hui le vampire est sympa, romantique et vegan. Merci Gaëlle pour ces informations 100% passionnantes, si vous me passez l'expression.
Merci Jean-Louis.
C'est tout.